Peut-on être diabétique, faire du sport au niveau et même devenir pro? Réponse aujourd'hui avec Corentin Chiral. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes d'alimentation sportive. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Corentin Chiral. S'il est désormais diététicien nutritionniste, il fut par le passé cycliste professionnel. Et pourtant, il a découvert peu après avoir commencé le cyclisme qu'il était diabétique de type 1. Comme vous allez le découvrir dans cet épisode, il n'est pas le seul. D'autres sportifs de haut niveau et professionnels le sont. C'est par exemple le cas du tennisman allemand Alexander Zverev, numéro 2 mondial et champion olympique. Et lui aussi avait entendu dans son enfance que le diabète n'était pas compatible avec le sport. Corentin nous explique dans cet épisode ce qu'est le diabète, notamment de type 1, ses conséquences sur le fonctionnement de son corps, son entraînement, ses compétitions, son mode de vie, son alimentation, mais aussi tout ce qui peut influencer sa glycémie. Et vous allez aussi comprendre que certaines de ses habitudes, certaines de ses pratiques, que lui il est obligé d'avoir adoptées par la force des choses, sont aussi très bonnes pour nous, car le diabète le conduit à avoir une alimentation et un mode de vie sain. Allez, c'est parti. Bonjour Corentin.
Bonjour, bonjour.
Comment vas-tu ?
Très très bien, ça va, et toi ?
Ça va très bien, écoute, moi il fait beau, je sens que tout à l'heure je vais aller courir, j'aurais peut-être un petit peu chaud, etc., tu vois, mais c'est un petit peu toujours mes conditions. Et puis je viens d'amener ma fille à l'école, parce qu'aujourd'hui on enregistre le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée. Alors c'est un petit peu ma rentrée aussi podcast, parce que j'ai fait une petite pause, et tiens, t'es le premier depuis, ça fait bien un mois que j'ai pas enregistré, donc il faut que je me chauffe un petit peu, tu vois, hop, ça va bien, etc. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est super intéressant, qu'on n'a jamais abordé, vraiment, mais jamais abordé. Je crois que j'ai aucun invité dans aucun de mes podcasts et pourtant j'ai enregistré quelques dizaines d'épisodes, même centaines, et je pense que j'ai jamais abordé ce sujet-là, donc ça va être super intéressant. Je le dis pour que tout le monde reste vraiment là en place. Mais d'abord, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots. Comment tu te présentes là ?
Alors déjà, moi je suis Corentin Chiral, tout simplement. Donc j'ai actuellement 27 ans. Je suis donc ancien coureur cycliste professionnel. Donc sur route. Je suis également maintenant du coup diététicien nutritionniste, donc basé à Évran, juste au sud de Dinan. Et donc, on va dire toujours amateur de cyclisme et de course à pied en général, de sport globalement. Et mon petit truc en plus, donc on parlera tout de suite après.
Ouais, alors c'est vrai que, en fait, quand on a calé un petit peu l'enregistrement du podcast, etc., j'ai cherché. Bon, tu fais partie des gens qui ont une fiche Wikipédia, alors je sais pas si elle est juste, si elle est fausse, etc. Mais effectivement, j'ai vu que tu avais été pro. Pendant combien de temps tu as été pro ?
J'ai dû faire 4 ans de mémoire.
Mais tu m'as dit que tu avais que 27 ans. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, c'est ma curiosité. Alors, on peut se dire, finalement, tu as été pro jusqu'à quel âge ?
C'est une bonne question. J'ai dû passer pro, je pense, vers les coups de 20 ans. Donc j'ai atterri vers 24 ans, je pense que j'ai arrêté à peu près, si mes mémoires sont bonnes.
C'est jeune pour un cycliste ?
Ouais, c'est jeune. J'ai eu aussi un coup de chance aussi qui m'a boosté à être professionnel. Je suis parti 2 ans aux États-Unis en tant que semi-pro où j'ai vécu pas mal. Du coup, dans l'objectif de passer pro, donc c'était plutôt l'équipe réserve. 2 années sont passées là-bas et puis finalement, on m'a proposé le contrat. Donc forcément, tu te poses un peu de questions. Tu te dis, ouais, est-ce que je suis prêt ? Mais en même temps, tu te dis aussi, t'as une chance, saisis-la. Et puis voilà, si ça ne marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux. Mais c'est ce que je m'étais dit. J'avais fait 2 ans, j'avais fait le tour de la question. Les États-Unis, c'est bien, mais ça reste quand même loin de chez soi aussi. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et puis de fil en aiguille, c'était plutôt pas mal, une bonne expérience. Et maintenant que j'y pense aussi également, ça permet aussi de se projeter sur l'avenir. C'est-à-dire qu'un professionnel qui passe à 26 ans, derrière, ça reste un métier où voilà, on va pas gagner sa vie comme un footballeur, donc faut quand même en être conscience du moins, et moi ça m'a permis de devenir ce que je suis actuellement.
Oui, c'est vrai que tu dis ça gagne pas comme un footballeur. Alors, je trouve que c'est injuste. Si vous étiez payé au mérite et aux heures passées sur la selle comparé à un footballeur, c'est juste incomparable, hein, mais c'est les lois du business en fait, hein.
Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Après, ça reste, on fait le sport avant tout par passion, et beaucoup sont les gens qui sont sportifs autant que des professionnels qui ne sont pas payés, qui font un job à côté. Et je pense que c'est tout le mérite du sport, du moins.
Quand t'es un pro, tu roules combien d'heures? Enfin, d'heures ou de kilomètres, parce que c'est en kilomètres plutôt qu'en chiffres, hein.
Ouais, heure kilomètre généralement par semaine. Alors hors course, tu fais au moins 20-25 heures de vélo par semaine. Donc que de vélo, tu comptes pas forcément la musculation, des choses comme ça. Après, en période de stage, ça peut aller jusqu'à 35 facile, ouais, par semaine, soit presque 1000 km. Donc oui, les heures de sel sont accumulées.
Et attends, tu as dit, on compte pas la musculation, ça fait la musculation un cycliste?
Alors, en termes de musculation, je parle plus de gainage, de poids de corps, finalement. C'est aussi beaucoup, beaucoup de temps avant, après les séances. Le renforcement musculaire, finalement, en fait, c'est ce qu'il faut aussi, partie intégrante de l'entraînement.
Je suis un peu taquin avec ça parce que quand je vois les cyclistes, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas grand-chose sur le corps. Moi, j'ai regardé Tour de France comme tout le monde, mais j'ai vu des gars, tu vois, moi, je suis en Auvergne, quand je vois quelqu'un comme Bardet, je me dis, mais attends, il a des bras, ils sont plus fins que mes doigts, des fois j'ai l'impression, etc. En pourcentage de gras, il y a plus grand-chose sur ces athlètes. Et pour ça qu'en muscle, je me disais, c'est vraiment sur du gainage, sur de la force, mais c'est pas sur du volume, quoi.
Ouais, là on va plus parler pour le coup de puissance. Malgré tout, ça c'est aussi de la force. C'est tout simplement la force multipliée par la vitesse. Il y a aussi différents types de coureurs, ceux qui sont sprinteurs, ceux qui sont grimpeurs. Forcément, c'est pas les mêmes rôles. Malgré tout, on voit quand même certains sprinteurs avec des biceps plutôt bien. Mais on va dire le muscle qui travaille le plus, c'est bien évidemment les mollets, les cuisses, donc généralement les bras, c'est là où on a tendance à perdre un petit peu, forcément.
Ouais, j'ai eu François Pervis il y a pas longtemps dans un épisode. C'est pas du tout le même sport, hein. François Pervis sur la piste, aller le plus fort possible avec vraiment, et puis avec de soulever de poids, etc. On n'est vraiment pas du tout dans le même sport, donc c'est deux cyclismes. C'est-à-dire qu'il y a un vélo, mais le reste, tout est différent quand même, hein.
Exactement, c'est comment tu vas l'utiliser et la puissance que tu vas lui donner. C'est vrai que la piste, c'est des efforts courts, très très intenses, donc ils se doivent d'être du coup très très puissants. Donc plus on a de masse musculaire, mieux ça va être. Mais en dehors de ça, plus la course va être longue, bah, plus potentiellement ça va être aussi engageant au niveau du corps. Donc il n'y a pas forcément intérêt à peser bah, le poids d'un pistard pour le coup.
Ouais, et puis on avait eu aussi Vincent Hermance, mais qui faisait du VTT trial. C'est encore une autre manière. Alors le vélo est encore totalement différent, etc. Mais c'est chouette parce qu'en fait, on se rend compte, pour ceux qui s'intéressent au vélo, il y a tellement de formes de cyclisme. Puis là, on parlait de VTT parce qu'il y avait les championnats du monde. On a parlé un peu de Tour de France. On pourrait parler de plein de disciplines entre la piste, entre ceux qui font de l'endurance, de l'ultra-endurance, etc. C'est vrai que le vélo, finalement, on peut en faire plein de choses.
Exactement. On voit avec le cyclo-cross, par exemple, il y a les contre-la-montre. Enfin, c'est un sport qui est très très multitâche. Et puis l'avantage, c'est qu'on se blesse beaucoup moins parce que c'est un sport porté. Donc d'où l'avantage en fait d'en faire en général beaucoup beaucoup et d'avoir tendance à peur à en faire un petit peu trop. Mais malgré tout, ça reste un sport très très chouette pour ça.
Ouais, bon, il y a quand même deux trucs. Il y a quand même les gadins et les voitures et les camions et les caravanes, enfin la route quoi. Parce que il y a quand même chaque année des accidents malheureusement sur les routes, avec bah, des morts même, hein, faut le dire. Ça c'est quand même un truc qui est vrai. Et puis les gadins. Alors dans le Tour de France, on a vu des gadins. Chez les filles, on a vu des gadins. Là, je regardais Alaphilippe. Je sais pas combien de fois cette année il est tombé. Il a encore une clavicule en vrac, etc. J'ai vu que on parle quand même vraiment des funambules de la route. Hein, c'est-à-dire que vous avez un équilibre, les cyclistes, c'est juste hallucinant, quoi.
On se doit et on l'apprend aussi, on apprend à tomber, c'est des choses comme ça aussi qui font que bah on est aussi pas forcément maître de ce qu'on va faire. Donc on se doit aussi d'être d'équilibriste, de voilà, en cas de virage par exemple avec un peu de cailloux, bah il faut reprendre tout ça. Et il faut savoir que dans un peloton de 200 coureurs, on se touche très très souvent. Donc forcément, il n'y a pas forcément intérêt à tomber et de se prendre 200 mecs sur la gueule, si j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est aussi un rôle à avoir au niveau de ça, et d'où l'importance encore maintenant d'apprendre aux jeunes en fait à être aussi équilibriste sur son vélo, parce que les chutes dans les courses, c'est aussi ça, des mecs voilà, pas forcément attention, qui freinent au moins coup de stress dans le peloton. Donc c'est aussi apprendre à rouler finalement en groupe et pas forcément tout seul. Et puis il y a un autre défi, comme tu l'as cité, c'est aussi bah, la route. La route, elle, tout le monde, elle se partage, c'est une voie publique. Après, malheureusement, les aménagements ne sont pas forcément faits pour, même si ça se démocratise de plus en plus. Enfin, je pense que ce serait une histoire sur de très très long terme, et je pense que voilà, faut faire attention, et j'ai pas grand chose à dire de plus parce que ça arrive tous les jours, et même encore hier, j'étais en train de faire une balade. Malheureusement, c'est comme ça, faut pas y penser, et on fait le sport avant tout par plaisir. Après, bien sûr, on évite les grands axes aux heures de pointe, je pense que c'est l'essentiel.
Ouais, et tu sais, après, bon, c'est une parenthèse, hein, juste comme ça, mais je comprends aussi, tu vois, on voit beaucoup de gravel maintenant, avec des vélos qui sont un peu plus mixtes, où on peut passer sur des, on peut dire, on va quitter la route, même chez les pros, hein, je sais plus qui j'ai vu l'an dernier, on voyait qu'avec, ils roulaient en gravel, et puis à un moment donné, ils coupent un petit peu les virages, ils prennent d'autres trucs, etc. C'est aussi un moyen, peut-être, de varier un peu, parce que, enfin, tu dis passer des heures et des heures, il y a les routes, il y a des fois les axes, c'est un peu difficile à échapper, etc. Là, il y a au moins un peu une sorte de changement possible, et même un peu, j'allais dire, un peu d'évasion. Moi, je voyais un peu la route des fois en me disant, bah, si tu peux pas en sortir, c'est dommage, parce que des fois, tu dois bien avoir envie d'en sortir quand même de cette route.
Exactement. Alors, on essaye en vélo de route quand c'est un peu sec, que c'est assez, voilà, assez bien au niveau du terrain. Malgré tout, pour ça, le gravel est un excellent choix parce qu'on peut faire les deux tout en ayant une aisance sur chaque terrain. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, les itinéraires de chemin, en général, ne manquent pas, comparé aux routes où, voilà, c'est souvent les mêmes routes. C'est de la répétition. Mais c'est vrai que le gravel, c'est pas forcément exploré depuis quelques années, mais là, c'est vraiment en vogue et c'est plutôt pas mal que ce soit.
Bon, ben ça c'était discussion générale, tu vois, ce qu'on appelle le small talk sur le vélo, tu vois, moi c'est mon petit côté, parce que en fait, ça fait un an que je dis que je vais faire un gravelman, donc il faut d'abord que je me mette au vélo, parce que moi, mon truc c'était fixie, tu vois, alors un fixie c'est pratique dans la ville, etc., je roulais quand même 2500 bornes par an en fixie, donc les cuisses ça marche, mais le jour où il faut faire 350 bornes en vélo, le fixie c'est un petit peu limite, alors tu sais, je me fais ma petite truc, etc. et tout, et je me dis, bon, comment je regarde un peu, ce qu'est les pratiques, etc. Et pour en revenir quand même sur le truc, sur le peloton, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit ça à ma femme cet été en regardant ton train, je dis, oh, putain, ce peloton, si t'es au milieu du truc là, que ça va à toute barzingue, ça roule à 50 à l'heure ou plus, et que c'est à toute barzingue, c'est vrai que le moins de coups de frein, en plus avec vos freins à disque là maintenant que vous avez, que ça freine encore plus sec qu'avant, quoi, cette histoire-là, je me dis, oh punaise, si t'es au milieu dedans, moi je serais pas tranquille, tu vois, moi qui suis gamin tout seul sur mes chemins, je me dis, c'est vrai qu'il y a c'est quand même une sacrée habitude, c'est pas donné à tout le monde, et quand on arrive à ce niveau pro, t'as commencé le vélo à quel âge, toi?
Moi, j'ai commencé vers 15 ans le vélo.
Ah, tard!
Ouais, plutôt tard. En fait, je voulais commencer avant, sauf du coup, je voulais m'inscrire et on m'a dit, c'est un peu trop dur, donc je pense pas que ça va le faire. Du coup, j'ai dû attendre. Donc, ouais, je voulais vraiment commencer par la route. Et donc, on m'a proposé le VTT. J'ai dit, non, non, moi, c'est vraiment la route. J'aimerais bien. Donc, j'ai dû attendre un petit peu. Finalement, je prenais le vélo de ma mère et puis. J'allais rouler tout seul en attendant que j'ai une licence pour le coup.
Ouais, parce que je vois des gamins, là, il y a un club de vélo pas loin de la maison, je les vois, ils font des exercices, et c'est vrai, ils font des exercices autour des bornes, on les fait passer sous des poteaux, sous des barres, ça ressemble un peu au limbo, là, des fois, ils font des trucs, etc. On voit tout l'équilibre qu'il y a sur le vélo. Je me dis qu'en plus, c'est super bien, parce que même s'ils roulaient que sur la route pour aller au collège, au lycée plus tard, cet équilibre-là, cette connaissance de la route, comprendre comment ça roule, etc., ça serait un truc vraiment important, et qui est plus que les petits circuits de faits par la police dans les écoles, là, où il y a les trucs, respecter les panneaux, mais c'est vraiment prendre conscience du vélo, de l'équilibre, etc. C'est vraiment super intéressant. Bon, allez, ça c'était la parenthèse. Maintenant, on va revenir au cœur du sujet parce que, et quand même, on a fait du teasing sur les gens avant et tout en disant, il y a un sujet qu'on n'a jamais abordé. Et ce sujet-là, c'est le diabète. Diabète et sport. Alors, je t'avoue que moi, je suis là vraiment, tu sais, j'arrive avec ma casquette, tu vois, sur la tête, là, vraiment ma casquette de je n'y connais rien. Vraiment, je n'y connais rien.
Parfait.
Et c'est parfait parce que on entend plein de choses. Déjà, il y a plusieurs types de diabète. On se demande ce qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions pour eux, pour leur entourage, pour leurs enfants, etc. Alors, on va essayer de repositionner un petit peu le cœur. Et déjà, pourquoi toi, on peut parler de ce sujet avec toi? Et quelle est ton histoire avec ça?
Alors tout simplement, moi en fait je suis diabétique donc de type 1, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de diabète. Moi diabétique de type 1, donc depuis l'âge de 16 ans, donc seulement une année après le début du vélo. Et donc j'ai été professionnel tout en ayant cette maladie dans une équipe qui, on va dire, qui a été créée dans ce but-là, en fait, promouvoir le cyclisme professionnel avec la maladie donc du diabète. Et donc de véhiculer ce message qui est forcément en fait le suivant, c'est-à-dire que le diabète et le sport de haut niveau, sont compatibles. Là où certains médecins, il y a encore 20 ans, disaient non, faut surtout pas faire du sport, alors qu'on se rend compte que c'est simplement en fait un médicament pour réguler la glycémie sur le long terme.
D'accord. Alors, on a dit il y a plusieurs formes de diabète. Le diabète de type 1, en quoi il consiste exactement?
C'est tout simplement en fait le pancréas, donc qui a un organe qui ne fonctionne plus, qui ne produit plus d'insuline. L'insuline sert à réguler le taux de sucre de sang, donc forcément on est obligé de l'injecter en voie sous-cutanée, donc par des stylos ou par des pompes qu'on voit souvent chez des personnes là. Il y a le diabète de type 2, donc là qui est plus dû à une surpoids, donc à une résistance à l'insuline qui agit beaucoup beaucoup mal. Et également on a en fait le diabète gestationnel, tout simplement lié au fait que le fœtus demande un peu plus d'apport, un peu plus de résistance à l'insuline, donc forcément là on adapte encore les repas.
Mais c'est vrai que le diabète de type 2, on dit souvent, c'est un peu le diabète du mode de vie, du style de vie, des excès, des écarts. Ce qui est un peu réducteur, parce qu'il y a pas que ça, hein, quand même, mais qui est quand même fortement lié. Il y a beaucoup de cas quand même qui sont liés au mode de vie. Le diabète de type 1, on sait d'où il vient. Ça arrive, s'il y a des causes génétiques ou ça arrive comme ça en fait.
En fait, il n'y a pas forcément vraiment de réelle raison, malgré tout. C'est simplement en fait le système immunitaire qui, on va dire, qui a un bug et qui ne produit plus, en fait, qui dit un peu aux cellules, voilà, arrêtez de produire telle insuline. Il y a quand même un petit facteur génétique qu'ils sont en train de trouver actuellement. Malgré tout, on n'a pas vraiment une réelle cause à 100%, mais c'est vraiment lié au système immunitaire pour le coup. Donc, on va dire que c'est pas forcément héréditaire parce qu'il y a très peu de chances. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme toutes les maladies immunitaires, c'est le corps lui-même. Après, trouver la cause, ça reste quand même très, très compliqué.
Comment tu t'es rendu compte à 16 ans que tu avais cette maladie en fait? Parce qu'on peut dire que c'est une maladie ou...
Oui, c'est totalement une maladie, exactement. Tout simplement, en fait, j'ai eu tous les symptômes. Donc, je buvais beaucoup, j'allais fréquemment uriner. Et donc, je perdais du poids. Donc, tout simplement, les symptômes d'une hyperglycémie, donc trop de sucre dans le sang, qui font que du coup, en fait, le corps perd tout ce qu'il a. Le sang, normalement, sert à apporter aux cellules ce qu'elles ont besoin. Sauf que là, ça ne rentre plus. Donc, finalement, on l'excrète. Donc, tout simplement, une prise de sang. Et puis, du coup, le résultat tombe. Voilà, j'ai le diabète. Donc, une hospitalisation d'une semaine. On apprend à s'injecter, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu brutal, mais finalement, on n'est tellement pas bien pendant quelques semaines, donc on est assez content de savoir finalement voilà, qu'est-ce que j'ai. Ok, du coup, on va apprendre un peu à gérer cette vie.
Tu parlais d'injection. C'est combien d'injections dans une journée?
Alors, j'ai envie de dire, c'est à chaque moment où on va manger des glucides, donc des féculents ou des sucres. Globalement, c'est sur chaque repas principaux. Après, il y a quand même des ajustements en fonction de la glycémie. Si elle est trop haute, on doit se corriger. À l'inverse, si elle est trop basse, on doit manger un peu de sucre. Mais globalement, c'est en moyenne 4-5 injections.
4-5 injections.
Exactement. Alors après, quand je dis injection, les gens font souvent référence aux prises de sang parce que c'est la seule injection que l'on nous fait. Alors que non, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment sous la peau, donc on touche vraiment pas aux veines. Voilà, c'est un peu douloureux au début parce que on connaît pas forcément cette manière de faire. Au bout d'un temps, on va dire que ça passe, même si ça reste jamais très très agréable.
Ouais. Et là-dedans, le sport, donc tu viens greffer le sport là-dedans. On parle en plus d'endurance, hein, donc des heures et des heures passées sur un vélo, du ravitaillement en route. Quand tu fais des étapes sur les tours, différents tours. Parce que t'as fait quoi, Paris-Tours, des courses comme ça que j'avais vu hein, dans ta carrière pro hein.
Ouais, exactement. Paris-Tours, des courses, quelques courses en France, beaucoup de courses du coup en Chine, aux États-Unis. J'ai un peu fait tout le monde entier finalement. Donc ouais, faut jouer avec comme tu disais la longueur des étapes, donc l'endurance, la chaleur, l'acclimatation. Il y a beaucoup beaucoup de phénomènes qui rentrent en compte. Faut savoir que le diabète en fait il est réglé et déréglé par tous les facteurs environnementaux, que ce soit l'alimentation, le sommeil, le stress, la météo, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, ce qui fait que maintenant, il n'y a pas en fait, de traitement très, 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 très au point, parce que c'est difficile de prévoir quel météo il va faire demain, quel état de fatigue on sera. C'est un challenge de tous les jours, et ce qui est le plus important, c'est d'apprendre en fait, de chaque situation dans laquelle on va être confronté, comment je la gère, et de se rappeler, tiens, C'était à peu près comme ça la dernière fois. Donc ouais, le sport au niveau en fait partie et encore plus dans le sens où l'hypoglycémie sur une course de 200 km, généralement, ça pardonne pas forcément.
Ouais, parce que tu vois, moi je me disais, moi j'ai un réflexe bête, tu sais, je pars courir comme ça 2 heures, si j'ai faim, je me prends. Alors moi, je suis pas gel, hein, ici on n'est pas trop, ouais, on n'est pas gel, tous les trucs chimiques on n'est pas. Mais tu sais, j'ai une barre, je me dis même à la limite, j'ai une pièce de 2 € dans ma poche, je m'arrête dans un truc, je prends un croissant, un pain au chocolat ou je sais pas quoi, comme j'ai fait un jour cet été. Mais moi c'est, j'y pense même pas en fait. Alors que toi, ce genre de comportement-là, t'es obligé de le réfléchir.
Exactement. Après, on l'apprend à réfléchir, c'est-à-dire que avant j'étais un peu pareil. Et puis en fait, on apprend que voilà, il nous faut toujours du sucre au cas où, on ne sait jamais. Mais la glycémie a vraiment une vraie tendance à être très incertaine. Donc, on peut avoir une hypoglycémie, pardon, alors qu'on allait très bien il y a 2 heures. Voilà, faut toujours prévoir au cas où. Et encore plus quand on fait du sport, ça m'est arrivé une fois d'avoir fait l'erreur de partir sans bidon, sans rien du tout, parce que bah j'avais complètement la tête ailleurs. Sauf qu'au moment où bah, j'étais quand même un petit peu bas, je me suis dit, bah, mince, j'ai rien. Comment je fais? Donc, voilà, c'est des petites choses où on apprend et on se rend compte que voilà, maintenant ça devient presque en fait c'est une habitude. Comme de mettre les chaussures à son pied, en fait, c'est totalement normal pour moi, finalement.
Ouais, t'as des, on va rentrer pour ceux qui vont creuser le sujet parce que il y a forcément des gens qui vont tomber dessus. T'as un truc quand même, tu te dis, je les mets toujours dans mon sac, tu vois un produit particulier. Enfin, tu te dis ça, j'ai toujours ça au cas où ça reste. Moi, tu sais, dans mes ceintures de course, j'ai toujours un petit stick de miel, quoi. Je le dis. Mais est-ce que t'as des trucs comme ça? Tu te dis ça, je sais que quoi qu'il arrive, si j'ai ça, je suis tranquille sur ma sortie.
Alors globalement, il y a 2 choses. Donc ça va être les aliments, comme tu dis. Globalement, moi j'aime bien toujours avoir un truc liquide et un truc solide. Ça peut être une barre ou ça peut être alors, des gels selon la course que je vais faire, mais surtout des pâtes de fruits, des compotes qui passent plutôt bien. La barre, ça va être plus être voilà pour prévoir ou voilà je sens que j'ai faim parce qu'il faut aussi réfléchir avec ça. C'est-à-dire que quand on a faim, bah, on se doit aussi de manger, de contrôler par rapport à ça. Donc, ça généralement c'est un peu les 2 choses que je prévois avec moi et généralement. Pour un peu pour les compétitions, moi j'ai une règle assez simple, c'est-à-dire que je compte toujours mes aliments par heure. Donc par exemple, voilà, je prends un gel pour 1 heure. Donc, si je fais 3 heures, j'en prends 3, mais j'en prends toujours 2 en plus parce que voilà, une chute, on en perd un, on prend un gel, on en perd un autre. Voilà, on sait jamais comment on sait malheureusement, mais voilà, ça serait frustrant d'arrêter parce que bah, du coup, on n'a pas le choix par rapport à ça. Et, je veux dire, c'est ma plus grande peur d'arrêter parce que mon diabète a mal fonctionné ou des choses comme ça.
J'imagine que l'hydratation, on en parle un petit peu, mais les conditions climatiques, mais l'hydratation, parce que tu parlais de boire beaucoup et finalement qu'il reste rien, sur les conditions climatiques, ça doit jouer beaucoup. On a vu, et je reparle du Tour de France, mais on parlait des cyclistes qui buvaient quoi, 12 ou 14 litres d'eau sur une étape, ce qui est énorme. Donc là aussi, il y a une question aussi de prise, de dilution des sels minéraux, du sucre et tout. J'imagine que ça à prendre en compte, ça.
Exactement, tout à fait. Plus on se déshydrate en fait, et donc plus le sang va se concentrer, et tout simplement plus on est à risque d'hyperglycémie. Donc en fait, il y aura plus de sucre dans le sang que d'eau. Donc d'où l'importance en fait de bien rester hydraté, de garder au maximum en fait de choses, on va dire le mieux possible. Après, on est à risque de rien, mais c'est beaucoup de facteurs la nutrition qui font que on se doit d'être méticuleux sur le maximum de choses que l'on peut contrôler. Après, il y a forcément des facteurs qu'on ne contrôle pas, mais si on a fait un maximum de choses dans ce sens-là, généralement, ce qui arrive arrivera, mais on va dire, on aura moins de surprises par rapport à ça.
Ouais, il y a beaucoup de, alors je sais pas s'il y a des stats ou quoi, mais il y a beaucoup de sportifs de haut niveau d'après toi qui souffrent de diabète.
Je pense qu'il y en a plus qu'on ne le sait, parce que tout simplement, alors, soit ils n'ont pas envie qu'on le sache, soit ils n'ont pas envie de se faire savoir, ce qui peut se comprendre. Il y a récemment un joueur de tennis, je ne sais plus c'est qui c'était, qui était ancien numéro 1 mondial, qui a tout simplement dit qu'il était diabétique depuis quelques années. Je me demande si c'est pas Zverev ou un truc comme ça. Donc, en fait, voilà, ça se démocratise. Il y a pas mal de footballeurs en Ligue 1 qui le sont également. Après, bon, forcément, on ne crie pas sur les toits. Je pense que c'est aussi l'idée. Après, je pense que c'est aussi une maladie qui est pas mal vécue, mais je sais pas, c'est ça difficile parce que c'est une maladie à long terme, à vie même, certes, mais en même temps, on peut en vivre, tandis qu'il y a quelques années, on en mourrait parce qu'il n'y a pas de traitement assimilé pour. Maintenant, voilà, on peut être diabétique en fait sans le montrer, et je pense que c'est ce qui fait dire aux gens et aux diabétiques, voilà, je suis une personne normale et voilà, prenez-moi comme une personne normale, tout simplement, quoi.
Ouais, alors je te confirme que c'est bien Zverev. Alors Zverev, hein, pour ceux qui ne le savent pas, 25 ans, numéro 2 mondial, champion olympique, et qui vient de lancer une fondation, justement, pour venir en aide aux personnes souffrant de diabète de type 1 et aider les gens à prévenir un diabète, un éventuel diabète de type 2, et notamment avec une vie saine et active, et pour montrer au monde qu'il ne faut pas se fixer de limites à cause de cette maladie. Et c'est vrai, tu le dis, il y en a qui veulent pas le, qui veulent pas le trop le montrer, etc. Mais je trouve que de voir, alors le cas de te dire toi, tu as pu faire du sport pro en étant diabétique, de voir que Zverev, champion olympique, numéro 2 mondial, enfin, l'un des ténors du circuit de tennis, qui est diabétique. Je pense que ça change aussi un petit peu parce que tu disais les médecins ils disent ouais faut pas faire de sport ou quoi que ce soit. Il y a des parents qui se rendent peut-être compte que leur enfant va être diabétique, ils disent punaise, comment on va gérer le sport? Des exemples comme ça, je trouve qu'ils sont super importants.
Exactement. Et là, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que je pense que des personnes comme ça, malgré tout, ça reste pas obligatoire, mais c'est des superbes initiatives qu'ils mettent en place parce que, en fait, de par leur intégrité dans le sport, c'est déjà on va dire une pub énorme. Mais alors en plus, s'ils peuvent promouvoir quelque chose pour la santé ou même toute autre bonne chose, c'est encore mieux. Et puis on sait que un CRF va toucher des millions de personnes. Moi, je vais peut-être en toucher des centaines, mais le principe, c'est un peu le même, c'est-à-dire qu'il faut véhiculer ce message, parce que le diabète est une maladie très incertaine. Voilà, on nous demande souvent comment vous faites exactement, mais moi, je peux conseiller, mais en aucun cas, ça marchera sur une même personne. C'est simplement des principes, et voilà, c'est simplement apprendre des autres, et finalement, c'est comme ça que ça se véhicule. Donc, véhiculer ce message, c'est hyper important pour les familles, comme tu l'as dit, parce que bah, beaucoup sont celles qui ont des enfants en bas âge et qui ne savent pas, en fait, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment il va faire plus tard. Et là, en fait, ça prouve que bah, voilà, tout est possible finalement. Et tant que c'est bien régulé, j'ai envie de dire, on vit normalement.
Ouais. Je mettrai quelques articles parce que j'ai quelques liens là, tu vois, qui apparaissent. Il y a un joueur de Nice en Ligue 1, donc qui s'appelle Casper Dolberg. Alors, je ne sais pas s'il joue encore à Nice, mais en tout cas, qui était à Nice l'an dernier, qui est diabétique, un ultra trailer aussi, tu vois, qui est depuis son plus jeune âge qu'il l'est. Donc, on a des cas qui remontent comme ça, et c'est vrai que ce qu'ils disent, et c'est aussi ce qu'on voulait, ce qu'on veut montrer par le biais de ton témoignage, c'est aussi de dire, bah oui, c'est possible. Bien sûr, il y a un suivi, il y a une connaissance, un apprentissage. Hein, des mesures de sécurité bah pour pas tomber en rade hein, comme tu le disais parce que enfin j'imagine hypoglycémie sur un vélo mis à part enfin c'est quoi c'est la chute c'est le gadin c'est dangereux quoi.
Bah en fait l'hypoglycémie pour ceux qui ne connaissent pas forcément c'est typiquement en fait la fringale, c'est-à-dire que on est au bout de l'effort, on a faim, mais en même temps on n'en peut plus en fait, et c'est simplement ça. Sur le vélo, ce qui est encore plus dangereux, c'est comme tu disais en fait le risque de chute, c'est-à-dire que t'as faim et paf, en fait, tu t'écroules. Donc là, c'est doublement important quand tu sais qu'il y a 200 coureurs dans le peloton. Donc voilà, c'est des enjeux différents, d'où en fait de les prévenir en amont, de surveiller sa glycémie au fil du temps, d'apprendre à se connaître et tout simplement d'apprendre aussi à s'alimenter en fait pendant la course sur le vélo.
La recommandation quand on veut faire ça, c'est quoi? Il faut être suivi par c'est des diététiciens, c'est quoi qui peuvent aider à comprendre un peu le fonctionnement?
Alors globalement, on est déjà suivi donc par son endocrinologue, donc tout simplement pour le diabète. Après, celui qui va être le plus à même en termes voilà de nutrition, ça va être bien sûr le diététicien nutritionniste qui là va vraiment en fait programmer la nutrition, mettre des choses en place, tester des choses. On n'est pas tous pareils et surtout en fait sur tel ou tel effort véhiculer un peu voilà ce message de il faut s'alimenter, mais en même temps pas trop parce que la glycémie on est aussi responsable directement pour l'équilibre. Moi, je sais que bah, en diététicien, j'ai pas mal de diabétiques et on fonctionne vraiment, alors pas au jour le jour, mais on met des choses en place, on voit si ça marche. Chez certains, il n'y a aucun souci. Chez certains, bah, on adapte. C'est vraiment en fait au cas par cas. Malgré tout, il y a quand même quelques principes de base qui fonctionnent plutôt bien.
J'avais fait un épisode, on avait parlé d'ultra, de triathlon longue distance. Alors j'ai perdu son nom, mais et ça me reviendra tout à l'heure. Et on me disait, lui, par exemple, sur ses entraînements, il testait, par exemple, tu sais, les ravitaillements qu'il va avoir pendant les courses. Il se renseigne sur la marque qui va sponsoriser, par exemple, le triathlon d'Embrun, l'Embraman, etc. Et il disait, je sais que c'est telle eau qui est partenaire, c'est tel ravitaillement qui est sur les trucs, je les teste. Pour ne pas avoir de surprise, pour être habitué, pour t'as des profils comme ça en disant tiens si je fais une course il y aura tel ou tel produit ou alors il faut que je sois autonome là-dessus, faut que enfin comment tu c'est quoi ton approche en fait?
Par rapport à ça déjà c'est hors du diabète c'est je pense tout sportif qui devrait être comme ça tester en fait un maximum de choses déjà un maximum de choses à tester pour voir ce qu'on tolère ce qu'on tolère pas comme dans la vie quotidienne finalement. Encore plus le jour de la compétition, qu'est-ce qui va être proposé, quel type d'aliment, quand on parlait, quelle marque va être proposée, tester des aliments. Malgré tout, le principe de base, c'est quand même être autonome le plus possible, au moins on s'évite aucune erreur. Malgré tout, quand c'est sur des longues distances ou voilà, quand on dépasse 3-4 heures, c'est quand même difficile d'apporter voilà, tout ce qu'on peut avoir besoin pendant la course. D'où l'idée en fait de tester beaucoup d'aliments différents. Et de savoir le jour J, voilà, ça j'aime bien, donc il n'y a aucun souci. Et pas te se dire, bon voilà, j'ai faim, j'ai pas le choix, je teste. Sauf que si ça passe pas, généralement, et encore plus dans le running, c'est forcément l'abandon, en fait.
Alors, il y a un autre sujet. J'ai dit qu'on l'aborderait pas entièrement, mais on va quand même le toucher. Mais parce que, en fait, dans le mode du sport, il y a aussi tout ce qui est les régimes alimentaires qui s'ajoutent, etc. Et on se demande s'il y a des choses qui sont compatibles. Il y a bientôt, on fera un épisode sur le régime cétogène. Toi, t'as testé la semaine vegan, etc. Est-ce qu'il y a des trucs où on peut se dire, tu vois, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter? Quand on a du diabète comme toi, ou est-ce que je peux être vegan plus diabète, céto plus diabète, tu vois, il y a des espèces de mélanges, est-ce que tout est possible ou il y a des trucs qui sont vraiment pas du tout possibles?
J'ai envie de dire, tout est possible du moment qu'on est bien suivi, je pense que c'est aussi l'essentiel. Après, tout, peut-être pas, parce qu'on peut pas être à jeun éternellement en tant que diabétique, forcément, au bout d'un temps, si on manque de sucre, on est obligé de manger. Ouais. Simplement, il faut aussi prendre sa santé en main. C'est-à-dire qu'on peut, comme tu en parles, avec tout ce qui sort, tous les régimes, pourquoi ça sort? Parce que bah, du coup, en fait, on est arrivé à une fin, en fait, finalement, d'alimentation. Enfin, l'humain, en fait, est fait pour créer quelque chose à chaque fois. D'où voilà, tout ce qui sort, le véganisme, le cétogène, comme tu en parles. C'est des petits tests. Moi personnellement, donc j'ai fait le test du véganisme, pardon. Voilà, j'en ai ressorti ce que je voulais en apprendre. Ça sera l'occasion d'en reparler. Mais après, faut pas oublier que y a les tests qu'on fait et il y a aussi la vie quotidienne et il y a aussi la santé. Donc c'est aussi relier tout ça et de faire attention malgré tout à certaines choses. Après, les études sont pas encore très claires sur beaucoup beaucoup de choses. Mais pour autant, certaines montrent des effets bénéfiques sur tel ou tel régime. Donc, j'ai envie de dire, attention, soyez prudents et faites-vous suivre. Ce serait dommage de tomber en carence et de, à contrepartie, d'être pendant 6 mois carencier, de devoir prendre des compléments. Voilà, c'est un peu la petite chose qui me fait un peu penser à ça.
Ouais. Et il y a un autre truc, tu vois, parce qu'on a fait plusieurs sujets sur les aliments ultra transformés. Le dernier épisode que j'ai diffusé était justement sur les aliments ultra transformés. Et où là, on se rend pas compte de la quantité de sucre ajouté, et puis sous différentes formes. Parce que dans le sport, on parle beaucoup de maltodextrose, on parle beaucoup de ça, qui sont finalement des dérivés de sucre, qui sont plein de choses autour de ça. Je me dis, toi qui dois contrôler la glycémie de manière plus proche, est-ce que finalement, tu dis, il faut arriver vers le plus proche de l'aliment le plus sain possible, ou en tout cas plus de sa structure de base, tu vois, au niveau de l'équilibre. Et je veux dire un truc, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la compote, mais est-ce que par rapport... on va revenir avec un épisode d'Anthony Fardet sur la matrice alimentaire, où on disait, bah, finalement, entre manger une pomme et manger une compote, qui est la pomme écrasée, finalement, déjà, ça change sa structure, etc. Est-ce que entre manger une pomme, par exemple, et prendre une compote, par rapport au diabète, à ta glycémie, est-ce que c'est pareil en fait?
Non, du tout. Et en fait, c'est d'où le principe. C'est pour ça que le diabète est bien, parce que c'est pas d'expliquer aux gens le principe de l'alimentation brute et transformée. C'est-à-dire que plus un aliment va être brut, par exemple la pomme, mieux en fait il va réguler la glycémie, donc moins impacter l'effet de la glycémie. Plus il va être transformé, par exemple la compote ou tous les plats un peu mixés, plus en fait il va être absorbé rapidement, ce qui provoque généralement un pic de glycémie. Donc voilà, on est un peu voilà, qu'est-ce que je passe? Je suis un peu trop élevé, qu'est-ce que je fais? Donc en fait c'est tout le principe de finalement de promouvoir au maximum pour le diabétique comme la personne normale des aliments les plus bruts possibles, prendre ses légumes les plus frais possibles, les cuisiner, limiter en fait un maximum de choses pré-préparées et encore plus s'il y a des additifs. On se rend compte aussi qu'aujourd'hui, beaucoup d'études sortent en disant voilà, tel ou tel additif aurait un impact sur tel ou tel cancer, sur le microbiote, et on sait que finalement, beaucoup de maladies arrivent à cause en fait des additifs. On voit maintenant avec le gluten, les insensibilités, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que voilà, c'est aussi une approche à avoir, et le diabétique a un peu cette chance-là de se dire bah, moi je mange plutôt bien équilibré, comparé à une personne normale qui se dit bah, tant que j'ai pas de problème, finalement je continue. C'est tout simplement ça.
Ouais, je te parle même pas des gens qui pensent qu'ils mangent bien alors qu'ils mangent mal en disant mais ça c'est bon et tu sais pourquoi et en fait je dis ça parce que je pense par exemple aux céréales de petit déjeuner où les gens ils disent ouais mais moi je mange des céréales au petit déjeuner, je prends tel truc et tout, puis les marques ils disent on veut votre bien etc, et puis quand en fait tu regardes il y a 35% de sucre à l'intérieur. Je pense que quand t'es diabétique ce genre de détail pour toi n'est pas un détail du tout, alors que pour il y a plein de gens mais attends c'est des céréales, c'est des cornflakes et c'est bon, alors que pour toi et pour un diabétique, c'est pas un détail cette histoire-là, quand même.
Exactement. En fait, tout simplement pour le diabétique, ce qui va pas le frustrer, c'est pas l'aliment en soi, de se dire même si voilà, c'est pas bon, tant pis, j'en mange quand même. C'est plus en fait l'après, c'est-à-dire que la glycémie qui va être très élevée ou très en hypoglycémie, en fait, ça impacte énormément notre morale. C'est-à-dire que si je mange un aliment qui est pas top ou j'ai fait un repas qui était vraiment pas bon, je sais que ma glycémie derrière, ça va être la fête foraine. Donc en fait, j'ai pas envie de me dire voilà, je suis en hyper, comment je corrige? Ah, moi, je suis en hypo, faut que je mange. En fait, j'ai envie d'être le plus équilibré possible. Donc, forcément, ça passe par des aliments, bah, les plus simples possibles.
J'avais parce que la technologie, bah, il faudrait sonder là-dedans. Peut-être que tu vois de quoi je veux parler, mais un capteur, tu vois, comme Sapiens. Tu vois ce que c'est, les capteurs Sapiens? Alors, je sais pas, peut-être que tu ou Super Sapiens, qui justement sont des capteurs de glycémie. Alors, je sais pas si tu l'utilises, si t'as testé ou pas déjà.
Alors en fait, tout simplement, c'est des capteurs qui ont été, en fait, qui sont à la base pour les diabétiques, qui ont été adaptés, on va dire, au monde normal, au monde sportif, plus ou moins.
Ouais.
Donc oui, moi j'utilise en fait celui destiné aux diabétiques.
Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Puis je crois que Kipchoge est sponsorisé par Super Sapiens. Donc on voit des photos où il a le capteur sur le bras. Et donc les gens. Et puis on voit en plus. Alors sur ton téléphone portable, tu récupères ces trucs-là. Alors je sais pas si pour les outils pour diabétiques, t'as aussi ta glycémie en direct sur ton téléphone portable désormais ou pas. C'est un truc que t'as?
Si, si, totalement, exactement. Ça fait déjà quelques années hein, qu'on l'a. C'est tout récent pour, on va dire, les personnes non diabétiques. Mais oui, ça fait quelques années que c'est sorti.
Tiens, alors la question, tu vois, pour quelqu'un qui vient de voir en consultation, là, qui est pas diabétique et qui dit, bah tiens, moi je voudrais bien surveiller ma glycémie. Tu penses à un élément important ou finalement tu veux dire, attends, t'as d'autres trucs à régler avant?
Il y a ça, comme tu le dis, ça va être en fonction de la personne. Est-ce que c'est un sportif de très haut niveau? Est-ce que voilà, il a fait toutes les choses et que c'est un truc en plus où là, oui, on peut aller chercher encore quelque chose, ou c'est juste une personne voilà qui pense pouvoir s'améliorer de ça, mais qui finalement mange très mal, dort pas. Enfin, voilà, en fait, c'est un outil intéressant à partir du moment où les bases sont là. C'est-à-dire que ça va pas améliorer la performance si tu manges mal. Ça va pas t'améliorer si tu t'entraînes pas. En fait, c'est quelque chose en plus. J'ai envie de dire, c'est comme le capteur de puissance. Un cyclotouriste qui prend un capteur de puissance, je pense pas que ça va lui être très utile. Bah, c'est un peu le même principe finalement. Et le tout, c'est aussi, et là malheureusement j'en reviens, mais d'être suivi parce que peu sont les personnes qui connaissent vraiment la glycémie, l'impact de la glycémie. Parce qu'une glycémie, il y a une moyenne, mais sauf qu'en fait, elle est tout le temps en dents de scie. Et ça, c'est normal. Et c'est tout simplement apprendre à la connaître et apprendre du coup à se faire connaître, tout simplement.
Ouais, moi, tu sais, l'autre jour, j'écoutais dans un podcast quelqu'un qui disait, ben, j'ai un capteur de glycémie à la maison pour tester, pour voir. Il dit, je l'utilise une fois dans l'année. Et en fait, juste par curiosité, mais il sait vraiment, tu vois, que ça sert à pas grand chose. Et je me disais, ben, moi, je serais même bien embêté d'avoir ça à la maison, d'en avoir un, parce que je saurais vraiment pas quoi faire. Tu vois, tu pourrais me donner n'importe quel chiffre, je n'aurais aucune idée. C'est d'ailleurs pour ça que ces capteurs, tu vois, tu pourrais te dire, bah, t'es dans la norme, etc. Je n'ai aucune idée de ce que je sais faire. Moi, j'ai surveillé mon poids et je surveille encore mon poids parce que j'ai perdu 30 kilos et je sais que les trucs sucrés en pagaille etc à droite à gauche, je sais pourquoi je les évitais, mais c'était même pas pour ma glycémie, tu vois, c'est étudier un petit peu tout globalité. Mais c'est vrai, quand tu te dis on n'a pas connaissance, je n'ai vraiment, tu vois, tu peux me dire il faudrait tant de sang dans le truc, je n'ai aucune idée. C'est un truc dont on a personne n'a vraiment une grande idée, à part quand on est concerné, ou pour toi c'est un critère qui est vraiment super important, quoi.
Exactement, je pense que déjà il faudrait se focaliser sur les personnes qui n'ont pas accès à ces produits-là. Je pense notamment aux pays peu développés. Après, oui, le sportif, c'est forcément une cible, mais on ne peut pas véhiculer des projets médicaux comme ça chez n'importe qui. J'ai des coureurs avec qui je roule plus ou moins et qui me disent « Oui, moi, j'ai testé. » Et je lui dis bah, « Alors, c'était quoi ton ressenti ?» Ah bah en fait j'ai arrêté parce que je comprenais pas. J'ai dit oui, mais en fait c'est tout le principe du business, on te vend quelque chose, tu l'achètes et puis en fait t'en fais rien. Et c'est ce qui est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose de fond à faire. Mais voilà, user son argent dans ça, je vois pas trop l'intérêt. Malgré tout, ça reste le sportif, toujours amène de nouveaux trucs qui vont changer telle ou telle chose. Sauf que si on n'a pas connaissance de telle ou telle chose, ça marchera pas forcément.
Ouais, mais le sportif, c'est un geek. Il aime bien les gadgets, il aime bien les trucs. Dans le vélo, moi je travaillais avec un vendeur de vélo pendant. Je regardais les gens comme ils achetaient un vélo, entre les vélos les plus légers, les trucs comme ça, etc. Il y a plein de technologies. On aime se faire plaisir avec la technologie. La technologie arrive sur nous. Dans le running, c'est les plaques carbone. Dans la natation, à un moment, c'était les combinaisons. Enfin, il y a tous les sports vont avoir un petit peu leur truc. Les triathlètes, j'en parle pas, c'est les plus geeks de tous parce qu'ils mélangent un peu tout pour avoir la en profitant de leurs règles et autres. Et c'est vrai que finalement, pour les vendeurs de produits, mais que ça soit alimentaire, que ce soit technologique ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire c'est presque du pain béni, parce que c'est à un moment donné tu dis ah bah attends, on a ce truc là, on le prend, on le package, on met une application, on met un peu de suivi de sport, on dit vous allez augmenter vos performances, et tout d'un coup on se dit bah punaise, grâce à ça je vais le faire. Et l'autre jour j'ai écouté, c'est dans un épisode de Dans la tête d'un coureur avec Kian Jornet, et Kian Jornet, on dit comment tu récupères de l'UTMB, il dit je dors et je mange. Il dit, le reste ne sert à rien, ou presque, ou vraiment à la marge. Quand t'as fait ça, t'as fait 90, il a pas dit de chiffre, mais on s'est rendu compte que ça faisait tout. Et c'est là où après, parce qu'on pourrait dire après il y a la récupération, la cryothérapie. Un jour on m'a posé qu'est-ce que je pense de la cryothérapie, j'ai dit j'en sais rien, moi ça me fait pas d'effet. J'ai dit du moment que tu dors, tu manges, tu bois, j'ai l'impression que t'as fait 100% du truc ou 90% du truc. Et finalement, c'est un peu ça, hein, ce qu'on est en train de dire. C'est de dire aussi que, bah, faut se concentrer sur les bons éléments. Et quand t'es diabétique, bah, tu sais sur quoi te concentrer. Tu dois l'apprendre, etc. Mais c'est valable aussi pour tout le monde.
Exactement. Et je trouve que, je rebondis un peu ce que tu viens de dire, Kylian Jornet est un super personnage pour ça, parce que sa façon de faire les choses, très simple. Et en fait, c'est tout simplement ce que devrait, en fait, faire tout sportif. On se concentre beaucoup sur telle ou telle technologie, sur telle ou telle chose qui peuvent nous améliorer. Mais déjà, si tu manges bien, tu dors bien, ben, j'ai envie de dire, tu as fait 80% du job. Le reste, c'est tout simplement des petites choses à aller chercher. Mais il faut rester simple et pas se prendre la tête. Au bout d'un temps, le corps, il est aussi intelligent. Simplement, voilà, on apporte des petites choses par-ci, par-là, mais ça ne sert à rien. On ne va pas tout révolutionner en un siècle. Le sport, il a beaucoup, beaucoup évolué. J'ai envie de dire, en un siècle, on a appris beaucoup de choses. On en apprend encore un peu plus. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à oublier en fait les bases, qui sont tout simplement très très basiques, mais très simples aussi. Il y a tellement de technologies, il y a tellement de trucs à droite, à gauche. On en parle un peu avec les Cetones, c'est controversé. Voilà, on ne sait pas. Les études sont pour, mais il y a des effets. Mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est encore très, très flou tout ça, même s'il y a des effets potentiellement sur certaines pathologies. Du moment qu'on ne sait pas les expliquer, on ne peut pas savoir d'où en fait ça peut venir. Donc, je pense qu'il faut, toujours en fait avoir un œil critique sur tout ce qu'on met en place et rester sur les bases qui sont simplement la clé d'une performance. Parce qu'on l'a vu sur le Tour de France, ils ont beau avoir les meilleurs vélos du monde, les meilleurs compteurs, les meilleurs produits de performance. Le mec qui fait une déshydratation, bah, il finit à plus de 3 minutes, c'est terminé. Et puis, c'est comme ça.
Ouais, on l'a vu cette année et on le voit chaque année, il y a des défaillances chez les meilleurs, ça arrive et c'est vrai, et je trouve que ça remet bien en place les choses en fait. Cette histoire là, c'est aussi de se dire que c'est ce qui coûte le moins cher. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, que je recommande à tout le monde, et il y a une page où il fait la liste des bienfaits du sommeil et il dit oui, c'est pas un médicament, c'est un médicament gratuit qu'on a tous, c'est dormir qui fait ça. Et c'est vrai que c'est un truc qui coûte rien. Alors, il y en a, l'homme a pensé que dormir, c'était une perte de temps parce qu'on savait pas à quoi servait le sommeil, et que maintenant on réapprend à quoi, on comprend un peu certains trucs à quoi sert le sommeil, et on se rend compte que c'est important de dormir. Et la société avait envie de nous faire moins dormir et on a besoin de sommeil. On se rend compte aussi que la transformation des aliments, bah, finalement, ça nous amène surtout des problèmes, y compris écologique pour la planète, plutôt que de nous amener autant de bienfaits, que sur le plan de la pure santé et de la performance, c'est pas si bon que ça. Et j'ai envie de dire, en plus, ça permet d'arriver sur des trucs qui sont beaucoup plus simples, hein, et souvent moins coûteux, moins de gadgets, etc., que de partir sur des trucs de la technologie dans tous les sens, dans plein de choses. Bon, c'est vrai que pour le marketing, c'est moins bon, hein. Je suis désolé pour tous les vendeurs de gadgets en tout genre, mais pourtant, la réalité, elle est là-dedans, hein.
Tout à fait. Il y a certaines choses qui sont pratiques, qui sont utiles. Malgré tout, comme tu dis, en fait, les choses simples, souvent les moins chères. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit se focaliser avant tout. Et pour sa santé aussi. Je pense qu'on dérive beaucoup de droite à gauche avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font que on va forcément l'acheter. Après, voilà. Même moi, maintenant, je me dis, voilà, j'ai envie de certaines choses. Est-ce que j'en ai besoin? Et on se rend compte qu'au bout de jours, en fait, l'idée m'est passée, j'en ai pas besoin. C'est tout simplement ça, quoi.
Ouais, oui, puis en plus avec les technologies, on peut faire tellement de trucs et tout que sur ton compteur de vélo, ils vont te mettre ton taux de glycémie direct avec une alarme rouge en disant il faut te boire tout de suite parce que t'as un capteur qui est dans le truc. Non, mais après la technologie, les ordinateurs de bord et tout ce qu'on peut faire, etc., sont tellement puissants que on se prend un peu pour des machines. Et, alors que en fait, tu l'as dit, ce qui était super intéressant au début, c'est la connaissance que t'as de toi. C'est-à-dire que depuis que t'as cette maladie, t'as aussi appris à connaître, à savoir ce qu'il fallait, comment partir, avec quoi, ressentir les sensations, à quel moment il peut y avoir un souci, et je pense l'anticiper aussi suffisamment par rapport à, j'allais dire, l'intuition, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu développes ton intuition en disant, mon corps, il me met un signal, quoi.
Exactement. En fait, c'est tout simplement comme le sportif, qu'il soit pro ou amateur. On se lève un matin, on se dit, tiens, il y a un truc qui ne va pas, bon, je vais faire plutôt cool. En fait, c'est tout simplement ça, c'est écouter son corps. Et j'ai souvent aux patients, en fait, l'alimentation de pleine conscience, donc dans le domaine de la nutrition, c'est manger en fonction de nos besoins et pas manger, en fait, en fonction de nos envies. C'est tout simplement ça. C'est savoir s'écouter, se dire, bon, voilà, aujourd'hui, je suis comme ça, je vais faire plutôt comme ça. Et le diabète, pour ça, apprend énormément de choses. En fait, c'est tout simplement, on apprend de la glycémie. Parce que plus on va être perturbé au niveau de la glycémie, moins on va être en forme, plus on va être de mauvaise humeur, plus on va prendre du poids. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir ces problèmes qui peuvent entraîner derrière d'autres problèmes et encore plus graves. Donc tout simplement, plus on fait attention à soi, mieux on sera performant aussi pour les sportifs. Donc c'est tout simplement un peu monsieur, madame, tout le monde qui devrait se diriger par ça. Ça commence à se diriger par ça. Malgré tout, c'est un travail sur du très très long terme.
Ouais, parce que c'est compliqué, hein. Il y a plein de messages, il y a plein de. Puis les parents avaient eu des messages eux qu'ils nous ont transmis. Il y a des trucs à apprendre, désapprendre. Il y a tout un tas de choses qui changent, qui sont pas simples, hein. Parce que tout à l'heure je parlais des cornflakes, hein. Faut juste pas oublier qu'ils ont dépensé des millions pour nous dire que c'était un aliment santé à une époque. Mais comme la cigarette l'a été, hein. Franchement, l'alcool aussi, hein. Ce matin, on rigolait parce que en amenant ma fille à l'école, je vous raconte l'anecdote parce que c'était drôle. Ma fille, elle chantait et tout. On dit on dirait que t'as bu. Et je disais, ouais, tu te rappelles, à une époque, ils donnaient du vin aux gamins dans les écoles, hein, et tel produit, en pensant que c'était bien et autre. Alors qu'on sait que c'est pas bien, hein, mais comme la cigarette a été, ils avaient fait la promotion à une époque, les Américains, de telle ou telle chose. Donc, je suis sûr qu'en plus, les sportifs, tu leur dis, tu bois un verre de rouge et tu gagnes je sais pas combien de temps sur ton kilomètre de vélo. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, tu sais, c'est le. Pour la bonne blague, le frais, parce qu'on cherche tous les trucs pour être plus performant, pour arriver à avoir de la performance, etc. Donc voilà, donc c'est assez compréhensible, mais je me dis quand même, notamment sur des pathologies, sur des maladies comme le diabète, je pense que t'as dû voir quand même passer des trucs un peu, j'ai envie de dire un peu bullshit, tu vois, des trucs, tu dis, oh, pff, t'as ce truc-là, quoi, ça sert vraiment à rien, quoi. Ils essaient de me prendre pour des couillons, non?
Oui, il y a énormément de choses et je pense un peu à certains types de régimes. Après, j'ai envie de dire, parce que tu vois, encore hier, je regardais une étude qui avait potentiellement des effets bénéfiques sur tel ou tel mode d'alimentation. Mais en fait, on se rend compte en lisant un peu tout ça que l'effet placebo y est pour beaucoup, beaucoup de choses, sauf qu'en fait, l'effet placebo, on ne peut pas l'expliquer. Et c'est pour ça que certaines études ont des effets bénéfiques sur tel ou tel mode d'alimentation ou tel ou tel sport. Parce que si on fait croire à une personne qu'elle va être performante en buvant un verre de vin rouge, elle va forcément l'être parce que le mental va prendre le dessus. C'est comme tout sportif, un marathonien, il va finir son marathon parce qu'il veut le finir. Donc qu'il soit blessé, qu'il soit capable, il va le finir. Et oui, l'étude, c'était justement sur le vin rouge où il y avait donc des effets très bénéfique sur la santé en consommant une fois par jour du vin rouge. Sauf que là, en fait, l'étude avait été faite avec les antioxydants qui étaient à peu près équivalents à, je ne sais plus, je crois que c'était 10 litres de vin rouge par jour.
Oh
Donc, je pense
punaise!
qu'avant d'avoir les bons effets, je pense que ce sera l'alcool qui prendra le dessus. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a des effets avec certains types d'aliments, mais malgré tout, en fait, on les a un peu. On les a un peu détruits en prenant que les bonnes choses en très grande quantité, ce qui en fait bah, n'est pas réalisable dans la vraie vie grande finalement.
Ouais, et là je renvoie à l'épisode avec Anthony Fardet sur le réductionnisme en disant bah si on prend des éléments, on essaie de prendre juste le bout de truc qui nous intéresse dans l'aliment, mais en final il perd son intérêt parce qu'il y a les histoires de matrice, etc. C'est là où on se rend compte hein, qu'en voulant jouer au chimiste, il y a des trucs qui sont un peu compliqués et que ça marche pas tout à fait. Tiens, j'avais une question toi qui me vient comme ça. Moi tout de suite, tu sais, dans l'endurance, il y a le mythe de la plâtrée de pâtes. Alors j'ai eu plein d'invités quand même qui nous disent qu'ils mangent plus de pâtes à la veille des courses, le matin des courses ou quoi que ce soit. Mais j'imagine quand même qu'avec le diabète, la question, elle se pose encore plus. Parce que celui qui découvre là qu'il a un diabète là maintenant, qui avait peut-être des habitudes, qui se dit ah oh, tiens, il y a la pasta party la veille du marathon, etc. Le matin, il faut que je mange absolument ça. C'est un truc qui à éviter. Comment on fait ça?
En fait, il faut savoir que le diabète, on peut pas le transcrire chez une personne normale. C'est-à-dire que oui, la personne normale, elle va avoir besoin de beaucoup de féculents pour faire le stock. Le diabétique a un peu l'avantage là, c'est qu'il peut faire les stocks très rapidement parce qu'il s'injecte de l'insuline qui, elle, stocke très très rapidement. Donc en fait, de base, le diabétique, on va dire qu'il a un stockage dans le glycogène, alors pas forcément pas illimité, mais très 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 facile, pardon. Donc en fait, la grosse plâtrée de pâtes, si la glycémie était perturbée toute la journée, elle servira à rien. Elle servira juste en fait à empirer les effets parce que plus on va être en hyperglycémie, plus en fait les stocks restent dans le corps. C'est tout simplement ça. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et moi-même, hein, j'ai pu faire pas mal de tests avec voilà des régimes low carb, high carb, enfin riches en glucides. Et je me suis rendu compte de beaucoup beaucoup de choses qui font que bah je conseille aussi différemment maintenant en fonction bah, de la personne, de son activité, de son mode de vie, de son âge. Parce qu'on est tous différents et en fonction de comment on va être, ça résulte aussi de pas mal d'autres facteurs aussi. Par rapport à la compétition, faut savoir que oui, manger avant, voilà, ça reste déjà normal parce qu'on a besoin physiologiquement. Mais le plus important, et c'est là un peu le point de chaque sportif, c'est qu'il faut manger pendant l'effort avant tout. En fait, c'est pendant qu'il faut alimenter. Si on n'apporte pas pendant, on a beau faire les tonnes de pâtes avant. En fait, elles sont déjà digérées avant l'effort, donc elles ne serviront plus à rien, si ce n'est en fait à couper notre faim avant et même voire pendant le sport. Donc l'idée, vaut mieux fractionner ses repas et manger plus pendant le sport.
Et oui, et c'est comme ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en fait finalement cette discussion sur le diabète nous permet aussi de voir un petit peu les bases qu'on devrait aussi appliquer un petit peu tous. J'avais quand même une dernière question vraiment par rapport, tu sais, aux injections, tu disais 4, 5 injections, mais par exemple, tu en as besoin pendant des courses?
Ouais, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore de m'injecter pendant les courses totalement.
D'accord. Donc, et alors si tu t'entraînes tout seul, etc., ça veut dire que tu as toujours avec toi un kit, en cas de besoin ou quoi que ce soit.
Alors, c'est pas un kit, c'est simplement en fait un stylo
Ouais.
bah, voilà, avec un capuchon qu'on enlève, on a la petite seringue vraiment minime que j'ai, oui, par contre, ça c'est vraiment. En fait, ça et le sucre, c'est quelque chose qui est avec moi en fait tout le temps, que j'aille au supermarché, que j'aille marcher, que. J'ai toujours avec moi parce que voilà, je peux en avoir besoin et j'en ai besoin fréquemment de voilà de réguler le taux de sucre. Donc forcément, on va dire entre guillemets une petite piqûre, en fait, ça va réguler le taux de sucre. Et donc encore plus en course, si je sais que je suis en hyperglycémie, ce qui arrive fréquemment parce que le stress fait beaucoup augmenter et l'adrénaline également la glycémie, je sais que si je peux descendre à une glycémie normale, je serai plus performant et j'aurai aussi moins de crampes. Enfin, voilà, c'est une chaîne qui peut être très très longue, mais je serai beaucoup plus performant pour moi et du coup aussi sur le vélo ou en course à pied.
Ouais, et c'est vrai, est-ce que du si sur stress c'est intéressant aussi parce que je me dis même les conditions de course, donc tu parles du stress, mais je me dis niveau des hormones sur l'effort, etc. Ça doit aussi influer, j'imagine, sur tout ça. Je parlais pendant le Tour de France à celui qui avait cru qu'il avait gagné, mais qui je dis s'est fait sa dose de dopamine en pensant qu'il avait gagné sa course. Et bon, et j'avais dit et j'ai fait une prédiction le jour-là. Vous pouvez regarder la vidéo YouTube. J'ai dit de toute façon, il a vu qu'il pouvait gagner, donc il gagnera d'autres courses. Et ça pas loupé parce qu'il a gagné 3 étapes derrière, mais j'imagine que même ça doit avoir un impact finalement sur après la récupération, sur ton corps. Si tu as des hormones, si tu as fait beaucoup d'efforts, tu as des productions d'hormones, etc., différentes, j'imagine que derrière aussi sur ta récup, sur la glycémie, ça influence aussi, quoi.
Totalement. En fait, la glycémie, ces deux plus gros facteurs, en fait, ça va être l'alimentation et les hormones, parce que les hormones nous contrôlent, en fait, de base. Donc, en fait, une testostérone qui est très élevée, une adrénaline qui est très élevée, un manque de sommeil qui fait augmenter telle hormone, ça déséquilibre tout ça, en fait. Et d'où le principe, en fait, de dire oui, bah, attention, mais aussi d'avoir un regard, voilà, un peu plus lointain sur ça et de se dire, bon, bah, potentiellement, ça peut être ça, même si on peut jamais être sûr. Ça peut expliquer beaucoup, beaucoup de choses, mais le stress, l'adrénaline, tout ce qui va un peu nous énerver font généralement augmenter la glycémie parce que du coup, c'est un peu finalement le système du corps où voilà, en fait, on prend peur et on doit fuir. Donc, on doit avoir de l'énergie. Donc, tout simplement, en fait, on mobilise plus de sucre.
Ouais, c'est passionnant. C'est là aussi on voit la démarche holistique, finalement, de se dire il faut prendre la vie dans sa globalité. Pour tout le monde, c'est valable, hein. Le sommeil, l'alimentation, le stress, les émotions, tout ça, tout ça. Mais on voit aussi l'impact, et que quand tu as un organe du corps, et en l'occurrence le pancréas, qui fonctionne pas comme il devrait, eh ben ça aussi encore, tu creuses encore un peu plus les choses, tu vois encore un peu plus le fonctionnement, et c'est vraiment, vraiment ce qui montre aussi que le corps est quand même extrêmement bien fait, que tout l'équilibre, quand ces organes-là sont là pour une raison, hein, qu'ils ont, si le corps, si la nature les a mis là, c'est qu'il y avait une raison sur cette régulation, que peut-être que notre corps n'est pas aussi adapté à la vie actuelle telle qu'on l'a, avec le stress, le manque de sommeil, on en parlait tout à l'heure. On pourrait parler de plein de choses, hein, par rapport au confort de vie, par rapport à plein d'autres trucs, et que l'adaptation n'est peut-être pas si simple que ça, qu'il faut peut-être pas que se blâmer non plus en se disant bah c'est comme ça aussi, on est dans un environnement, mais que d'apprendre à le faire, et c'est ce qu'on fait à travers ce podcast, c'est aussi d'apprendre à comprendre aussi les éléments, qu'est-ce qui peut intervenir, sur quoi ça peut jouer, et on se rend compte que finalement, bah, tu vois, ce que je trouve vraiment intéressant dans la discussion, c'est par rapport au diabète, c'est de se dire que cette démarche holistique que tu as sur le diabète, cette démarche aussi vers le naturel, qui est nécessaire pour aussi, qui améliore ton mode de vie, bah, finalement, on devrait tous en tirer aussi des leçons en se disant, bah, c'est bien pour nous aussi, quoi.
Exactement. En fait, faut savoir que la personne diabétique, elle est un peu, on va dire, enfermée dans une démarche plutôt naturelle, va trouver des choses les plus saines possibles, pas par envie, en fait, tout simplement, pour sa santé, pour être la meilleure possible, en fait, le plus en forme possible. C'est un peu ce que devrait avoir monsieur et madame tout le monde, sauf que, et c'est compréhensible, on peut pas tous vivre dans ce mode de vie. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont jamais rien de leur vie, et tant mieux, finalement. Simplement, je pense qu'il faut rester humble, il faut apprendre de ses expériences, apprendre des différents, voilà, des podcasts, des études, des lectures, toujours en fait emmagasiner un maximum de choses pour soi-même d'abord et puis après son entourage. Mais je pense que l'humain est devenu tellement intelligent et encore plus dans la nouvelle génération qui est très connectée qu'on a beaucoup en fait de ressources et encore plus qu'avant. Simplement, il faut savoir les utiliser à bon escient, à apprendre un maximum de choses. Rester simple et après, voilà, il y a certaines règles de base qu'on sait tous et si on les met en place, c'est généralement que ça produit quand même des effets bénéfiques sur la santé, donc il ne faut pas forcément l'oublier.
Eh ben écoute, c'est une très belle conclusion. En plus, on va le dire, c'est que si les gens veulent creuser un petit peu le sujet, alors pas que le sujet du diabète, hein, d'ailleurs, parce que on l'a dit, ton métier, c'est diététicien nutritionniste. Je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, tu suis toujours en équipe pro ou...
Alors, je l'ai fait, j'ai arrêté récemment en mai dernier. Donc là, je suis à mon cabinet, en fait, à plein temps, donc plutôt intéressant également.
Ouais, et donc il y a toute forme d'accompagnement, il n'y a pas que sur la partie diabète. Alors bien sûr, tu connais le diabète tout particulièrement, et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs hein, de voir, parce que les gens qui cherchent, et j'en parlais avec quelqu'un, avec un ancien invité sur un autre sujet aussi, en disant, on cherche des gens, des exemples aussi, de gens qui connaissent un peu le truc, et pas des gens qui sont... Toi, t'as le regard intérieur en fait, c'est-à-dire que, oui, t'as testé, tu sais ce que c'est, t'as un exemple aussi de montrer que le sportif, on peut devenir sportif pro, faire du haut niveau, etc., avec cette maladie-là, et que ça, on peut apprendre à le gérer, et pour des gens, je pense que ça doit être rassurant aussi, j'imagine, quelqu'un qui cherche à gérer son diabète, d'avoir quelqu'un comme toi qui dit, oui, moi je sais ce que c'est parce que je le fais au quotidien, quoi.
Exactement. Et puis j'ai l'expérience, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience avec beaucoup de situations différentes, ce qui fait que j'impose pas aux gens, je leur raconte mon histoire, les choses qui ont été mises en place. Après, libre à eux de mettre les choses en place, mais j'aurais, entre guillemets, rêvé d'être endocrinologue pour cette passion qui est un peu les maladies auto-immunes au niveau des hormones, parce que ça me passionne. Après, en tant que diététicien, je me mets à te conseiller sur pas mal de choses dans la nutrition, parce que pertinemment, moi-même, je sais que certains aliments sont plus ou moins néfastes pour la glycémie. Donc, je pense que les gens ont aussi cette approche de « oui, il a vécu, donc forcément, je le crois pas comme ça, mais ce sera forcément plus bénéfique que si moi, je mets en place telle chose, ou alors je ne connais pas les choses. » Donc, potentiellement, moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans les patients qui sont diabétiques ou non, c'est que mon histoire m'a amené à avoir beaucoup, beaucoup de situations stressantes, différentes, ce qui fait que maintenant, j'ai un regard, on va dire, beaucoup plus large, et ce qui fait aussi que je peux mieux conseiller par rapport à ça. Et par rapport à ce que tu disais, oui, donc je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans le sport et le diabète. Malgré tout, je vois des personnes qui ont ni ces deux choses-là, simplement pour perdre du poids. Donc, on va dire, j'accueille un peu monsieur tout le monde.
Ouais, je mettrai le lien vers ton site. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur où est-ce qu'on peut te retrouver, ceux qui voudraient
Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, un peu tout ce qui se fait.
Un petit peu tout. TikTok aussi ou pas? Parce que maintenant je demande TikTok parce que avant on se disait TikTok c'est pour les jeunes qui dansent, etc. Bien en fait TikTok on peut tout faire dessus.
Ouais, TikTok, je pense que j'ai passé cette frontière. J'utilise pas, je pense que c'est pas ma génération, donc il y a tellement de choses. Je doute pas que ce soit un beau réseau, mais non, je laisse.
Il a 27 ans, il dit c'est pas ma génération. Et le vieux que je suis de 46 berges, il est dessus. Hein, donc voilà. Bref, mais bon, chacun son truc. Donc je mettrai bien sûr tous les liens. Tiens, et je t'ai pas posé une question parce qu'il restait quand même une dernière question. Et je suis obligé de la poser. Le miel et le diabète, c'est un bon mariage ou
ça, alors faut pas oublier que ça reste du sucre, comme sirop d'agave, comme beaucoup beaucoup de sucre plutôt naturel. Malgré tout, je préfère toujours manger du miel que du sucre raffiné. Pourquoi? Parce que le miel contient déjà des préenzymes, contient pas mal de vitamines. Donc j'ai envie de dire, c'est comme tout en fait, c'est la consommation. Plus on va en consommer tout le temps, plus ça va déséquilibrer. Malgré tout, il peut être conseillé chez le sportif pendant l'effort, avant l'effort. Après, généralement, on aime tous une petite cuillère de miel. Si en plus, on a de la toux, généralement, ça guérit un petit peu plus vite. Donc ouais, c'est plutôt cool.
Voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, vous savez tout. Hein. Il fallait que je pose ma question quand même parce que je voulais dire, il fallait aller jusqu'au bout de la logique. Écoute, Corentin, c'était un plaisir de discuter avec toi de ce sujet-là. On l'a dit, un jour, il faudra qu'on parle de véganisme, etc. Parce que c'est un sujet qui était beaucoup demandé. On a plein de sujets qui se sont demandés de plus en plus. Mais c'est vrai que je pense que le diabète nous avait pas demandé, tu vois, comme sujet, mais que pourtant, c'est un sujet qui est vraiment super intéressant parce qu'il permet de toucher plein de choses. Et puis, on se rend compte c'est vrai que ça se dit pas, mais quand on creuse un peu, je mettrai les liens vers les 2-3 articles que j'ai trouvés sur des sportifs de très haut niveau, hein, je le dis, Zverev, hein, comme tu disais tout à l'heure, et deuxième mondial quand même, peut-être même premier à force un jour, qui est diabétique, qui lance une fondation sur le sujet aussi pour montrer aux jeunes, hein, que on peut faire du sport de haut niveau, on peut vivre ses rêves tout en ayant cette maladie. C'est important aussi de le faire passer, ce message-là, parce que c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'on rêve de faire des choses et il y a eu longtemps des messages, tu disais, les médecins disaient non, faut pas faire de sport ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, bah, ça aide aussi à réguler tout ça, hein. Ça fait partie des éléments qui permettent de réguler.
Exactement. En fait, c'est, j'ai envie de dire ça, l'alimentation, c'est deux médicaments très sains, très naturels qu'on peut faire tous les jours. Et le fait de faire du sport, de bouger, et encore plus quand on est diabétique ou pas ou bien diabétique, ça prévient de tellement de maladies que finalement, ces deux choses, et on en revient un peu à ce qu'on disait, ces deux choses gratuites qu'on pourrait faire tout le temps. Et voilà, tout le monde ne le fait pas, à tort, mais le diabétique, généralement, prend beaucoup soin de lui, fait beaucoup de sport parce que ben voilà, il sait que ça c'est bénéfique. Donc si je fais plus de sport, que je m'injecte moins, ça sera mieux, toujours mieux pour mon mode de vie. Donc voilà, je pense que et encore plus les personnes de très haut niveau, donc notamment Zverev ou d'autres, ça forge le talent et ça forge aussi le mental de certaines personnes qui peuvent être voilà un peu amoindries parce qu'elles se sentent seules d'avoir ce type de maladie. Le diabète et peut être difficile à vivre parce que on est diagnostiqué, on dit que c'est à vie, on a beau avoir 15 ans, 40 ans, on se dit, bah, mince, si c'est tout le temps comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que, voilà, avoir un réseau comme ça et d'apprendre de plus en plus de différentes personnes, bah, du coup, ça nous donne un peu de bon cœur et on se dit, bah oui, si lui il l'a fait, je ne ferais pas peut-être mieux, mais au moins je sais que c'est possible. Et voilà, c'est tout simplement des petites choses qui font que bah, petit à petit, on gravite autour et tout va un peu mieux, quoi.
Voilà, et puis je pense qu'au fur et à mesure qu'on creuse le sujet, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui ont ces maladies-là et qui on se rend peut-être pas du tout compte, hein, et qu'en parlant un petit peu, ben on se rend compte que finalement telle ou telle personne, etc., qu'on connaissait pas ou qu'on voyait peut-être. Tu sais, moi c'est pareil avec ma hernie. Hein, depuis que je sais que j'ai une hernie, je connais plein de gens qui ont des hernies, alors qu'avant je connaissais personne qui avait une hernie. Et parce que d'un coup, on se focalise sur un sujet, on s'intéresse au sujet, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des modèles aussi, des inspirations, de voir que en fait, bah des gens de haut niveau, des gens qui sont devenus professionnels comme toi, etc., qui ont fait des carrières, qui peuvent aussi aider, qui peuvent aussi accompagner, sont là. Et je trouve que c'est très important. Et c'est aussi un peu la vocation du podcast, de montrer aussi, hein, de nous apprendre plein de choses comme ça. Je te remercie beaucoup, Corentin, pour le temps passé avec moi. C'était passionnant de découvrir tout ça, tu vois, puis de voir un peu le fonctionnement. Parce que moi, je t'avoue que je le dis vraiment, moi, je suis pas concerné, mais je n'y connaissais rien du tout. Je dis pas que j'y connais grand chose maintenant, mais en tout cas, je cerne un petit peu mieux les choses et je vois aussi un petit peu mieux la logique en tout cas que tu poursuis, ce que tu peux dire. Je mets bien sûr tous les liens en note de l'épisode pour que les gens puissent te contacter, t'envoyer des messages, discuter avec toi. S'ils ont besoin de ton aide, ils te retrouveront. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et bien bougez, hein, mangez bien, bougez bien, dormez bien. Quoi dire d'autre? À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.